Bonjour, ici Diane Osier. Bienvenue à ce troisième balado. Sur cet air d'été, on s'accroche aux vagues. On va parler d'échanges épistolaires. Et qu'est-ce que c'est? Les carnets de bord sur le site du Salon du livre de la péninsule acadienne. On va découvrir tout ça ensemble. Mais d'abord, voici notre invité, qui est originaire d'Inkerman Ferry, dans la péninsule acadienne. Elle est maintenant établie avec sa petite famille dans le sud-est de la province, à Greater Lake Bourne. Elle adore voyager, des rencontres entre amis et le bon vin. Mais par-dessus tout, elle est passionnée des livres. Et elle a toujours rêvé de voir son premier roman dans sa bibliothèque. Elle nous présente le premier d'une longue série, À la recherche de Sarah Sparks. Bonjour Sophie Power.
Bonjour Diane.
J'ai lu À la recherche de Sarah Sparks. J'ai lu ça avec beaucoup de bonheur et d'intérêt. En fait, c'était très divertissant.
Oui.
D'abord, je me suis dit, ah, parce que quand on regarde, je vais montrer le livre. Le voyez-vous à l'envers?
Non, je le vois à l'endroit.
Ah, super! Moi, je le vois à l'envers. C'est extraordinaire. Fait quand on voit ça, on appelle ça de la lecture chiclets.
Oui.
On se dit, moi, c'est ça, je suis dans la cinquantaine. Je me suis dit, tu vois-tu être comme intéressée ou interpellée par ça? Et puis, j'ai embarqué, j'ai voulu partir avec cette Sarah qui va avoir 30 ans, 29 ans, elle habite encore chez ses parents, un père poule, une mère hyper contrôlante, elle travaille à l'épicerie du coin dans une ville côtière à Portland, elle trouve pas ça très excitant de vivre là, elle dit que sa vie est aussi beige qu'une paire de bas de nylon, et puis là, elle décide, elle a le goût, de partir. En fait, l'expression « je vais aller voir si j'y suis » prend tout son sens ici. Et elle décide qu'elle va aller voir si elle est en Californie, à Los Angeles. Elle décolle sa road trip. Une chose qui vous a déjà intéressée, Sophie? Parce qu'il paraît que les auteurs, plus vous parlez de vous-même, plus vous rejoignez l'universel. Fait qu'il y avait-tu une Sarah dans Sophie?
Sophie aime beaucoup faire des road trips. Sophie aime beaucoup voyager. Donc, je me suis beaucoup inspirée de ça. Puis, j'ai toujours été attirée par la Californie. Donc, j'ai eu la chance de voyager là-bas, de faire quelques endroits que Sarah visite ou dans son road trip qui est un peu chaotique. Mais à part les voyages, Sarah ne me ressemble pas du tout.
Et pourquoi la Californie?
Oh, je sais pas, la plage, la chaleur, les palmiers, c'est toujours quelque chose, même adolescente, je disais toujours que j'allais aller en Californie un jour, puis là, j'ai amené mon personnage, là.
Donc, ça n'a pas rapport avec les surfers?
Non, pas du tout.
Toujours très beau, OK, parce que Sarah, c'était ça, un des...
Oui.
D'ailleurs, elle s'est faite une liste qu'elle souhaitait, mais qu'elle ne pensait pas vraiment réaliser.
C'est ça, exactement.
Faites-vous des listes, vous?
Non, pas vraiment. Moi, okay. je pense beaucoup à mes choses. Je me projette beaucoup. Si j'ai un projet, je me vois concrétiser mon projet, mais je n'ai pas de bucket list.
Donc, quand on écrit un livre comme celui-là, je veux dire... Je sais pas, j'ai jamais écrit de livre. Est-ce que c'est... On entend ça souvent des auteurs, c'est que les personnages prennent le dessus. Ils décident par eux-mêmes. Ils ont quasiment une vie. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour Sarah?
Incroyable. On dirait qu'elle me chuchotait dans l'oreille. J'avais comme un film dans ma tête. Tout le temps, je voyais les images. C'est incroyable. Elle me parlait tout le temps. Je prenais des notes de qu'est-ce qu'elle me disait. On dirait que c'était vraiment c'est spécial de ma part.
Comment ça fonctionnait? Je veux dire, est-ce que vous aviez parce qu'il y arrive toutes sortes d'affaires, là. Tout ce qui peut y arriver, il y arrive, là. Je veux dire, on parle d'une tempête, rencontre deux filles qui sont pas, disons, clean, mais à cause de ça, on va rencontrer quelqu'un de vraiment intéressant qui va changer le cours de sa vie. Je veux dire, il y a plein de choses qui leur arrivent. Vous aviez des flashs qui vous arrivaient comme des inspirations et vous vous assisez à votre table ou c'est comme ça que ça se passait?
Oui.
Ah oui?
Ben, j'avais un plan défini. Je savais exactement, parce que j'avais une coach en écriture qui m'a aidée, fait qu'on a travaillé mon plan. Je savais du point A au point B ce qui allait se passer, mais je vais vous dire là, qu'en faisant du ménage, là, les idées, ça pop. Là, j'arrête mon ménage, je m'en vais écrire mes idées que j'ai, puis je suis comme « Ah oui, c'est ça que je voulais dire! » Puis là, je décolle écrire, puis oui, en faisant du ménage avec de la musique dans les oreilles, c'est là que mes idées arrivent.
C'est comme ça que vous respectez quand l'inspiration arrive.
C'est ça, c'est exactement ça. Je suis pas quelqu'un qui est assis à tous les jours en train d'écrire. Il y en a beaucoup qui disent « Ok, non, faut que tu aies une routine d'écriture. » Oui, c'est important. Je dis pas le contraire, mais moi, c'est vraiment avec l'inspiration. Si 3 jours semaine, je fais comme « Ok, aujourd'hui, j'écris. Demain, ok, j'écris pas, mais tout ce qui va arriver, je prends des notes. Le lendemain, je vais aller écrire mes choses. » C'est comme ça que ça se passe pour moi.
Donc, l'idée de vous asseoir avec la page blanche, ça n'existe pas?
Non, c'est non. Ça. Non. Dans ma tête, c'est tout le temps comme ça déroule comme un film, puis là, je vais prendre mes notes, puis là, je prends une pause, puis là, encore une fois, oh, tiens, là, j'ai des idées, je vais les écrire. C'est comme ça que ça fonctionne.
C'est fabuleux. Il y a une expression qui m'a vraiment fait sourire. J'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai pas fait de recherche pour savoir si ça existait parce que je voulais le découvrir avec vous. C'est à la page 182 quand Anna, la meilleure amie de Sarah, se retrouve après que Sarah revient. Puis elle parle de champagne attitude.
C'est moi puis ma coach d'écriture, elle disait tout le temps, oh, tu sais, avoir la champagne attitude, tu sais, de tout le temps être comme, oui, comment je dirais ça, tu sais, un peu à la, je sais pas si vous savez, Carrie Bradshaw, là, dans Sex and the City, elle a tout le temps comme une attitude positive, puis comme, oh, je sais pas comment dire ça, mais oui, c'est ça, avoir une champagne attitude, tu sais, let's go, on y va, là.
On est bubbly, c'est pétillant.
Oui, c'est ça, exactement, oui.
C'est vivant.
Exact.
Mais ouais, je dirais que c'est un peu ça qui représente le livre. Mm-hmm. Dans la chambre, l'attitude, c'est ce qu'elle voulait, Sarah. Dites-moi si je me trompe, moi j'ai perçu ça comme ça parce que l'expression beige comme un bon nylon, ça peut pas être bol, tu sais.
Non, c'est ça.
Mal à Portland, mais je dis pas que la ville est plate, mais sa vie
est plate dans
Portland.
C'est exactement ça.
Et puis là, qu'on parle de champagne attitude, quand elle revient, oui, il y a eu une ouverture, puis ce qu'elle recherchait, elle l'a trouvé. Est-ce que c'est une façon de donner espoir à du monde qui n'ose pas, justement?
C'était exactement ça, sortir de sa coquille. Moi-même, ben, tu vois, un peu là, Sarah, j'y ressemble pour avoir sorti de ma coquille en écrivant mon livre. C'est tout le temps un projet que... Oh, je voulais tellement écrire un livre, mais tu sais, je ne savais pas quoi faire. Je suis qui, moi? Le syndrome de l'imposteur. Je suis qui, moi, Sophie Powell, pour écrire un livre? Tu sais, je viens d'un petit village. Je connais personne, moi, dans le monde. Des écrivains, des écrivaines. J'ai pas de cours là-dedans, zéro puis une barre. Je suis une ancienne technicienne en pharmacie. Tu sais, je suis maman à la maison. Mais c'est ça, le but était de la sortir de sa coquille, puis en me sortant moi-même de ma coquille. Je dis tout le temps que je suis une écrivaine qui est sortie du garde-robe.
Est-ce que ça se faisait à mesure? Sentiez-vous le changement se faire en vous en même temps que ça le faisait avec le personnage?
Beaucoup, beaucoup. Juste le fait d'avoir dit à mon entourage que moi, mon rêve, c'était d'écrire un livre puis d'avoir le support de tout le monde. Oh, j'en ai parlé de plus en plus sur mes réseaux sociaux, tu sais, sur mon Instagram, Facebook. J'ai maintenant un site web. J'aime écrire des textes. Je partage beaucoup sur mes réseaux sociaux. Vraiment, ça m'a fait complètement sortir de ma zone de confort, justement faire des entrevues aussi. Ça me sort beaucoup de ma zone de confort.
Qu'est-ce que vous faisiez au début de faire des entrevues?
Oh mon Dieu, moi, c'est de communiquer comme ça. Là. Moi, je suis bonne pour écrire, je suis pas bonne pour parler. Je suis pas quelqu'un qui aime parler devant les gens. Je suis beaucoup gênée, je suis réservée. Mais c'est ça. Mais moi et Sarah, je pense qu'on a fait le même cheminement en même temps.
Ben, je peux vous annoncer que vous vous exprimez très bien. Vous êtes.
Merci.
Vous avez la champagne attitude.
Merci.
C'est que je me rends compte que c'est si on se sent comme ça, si on a peur ou qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'est pas conscient de ce qui nous habite. J'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé avec Sophie Power.
Oui, je pense que c'est ça. Exactement ça.
Puis, peut-être qu'on vient de la péninsule acadienne, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, moi, je viens de Tracadie, c'est à côté d'Inkerman Ferry. Je voulais en parler, puis je voulais le dire parce que on dirait qu'on. Ben, pas. On est terriblement surpris qu'on fasse des affaires comme le reste du monde font.
Oui. D'aller oui, c'est ça. C'est exactement ça.
Puis je l'ai vu, le Sex and the City. C'est une inspiration pour vous, Sophie. Pour l'avoir écouté moi aussi, j'ai tout à fait reconnu. Vous avez été fidèle à tous vos inspirants. Vous avez parlé de votre entourage tantôt.
Oui.
Comment ils ont reçu ça? Parce que souvent, je ne sais pas si c'est vrai, les auteurs s'inspirent des gens qui les entourent. De un, est-ce qu'ils se sont reconnus? Avez-vous... Parlez-moi un peu de ça.
Non, dans le fond, ben mon entourage, je pense qu'ils ont adoré le fait que je poursuive mon rêve, c'est que je fonce, puis que mes parents, mon conjoint, toute ma famille, toutes mes amis, c'est incroyable. Mais je pense pas que je me suis pas inspirée de la vie de mon entourage, mais moi, je suis une personne qui observe beaucoup, mettons, dans les cafés, si je vais au centre d'achat, dans les parcs, j'observe, j'écoute. Tu sais, je veux pas dire que j'espionne le monde, là, mais tu sais, comme, tu veux pas, on entend des conversations, puis c'est un peu comme aller dans un salon de coiffure aussi, on entend beaucoup de choses. Fait que je m'inspire beaucoup de là, mais pas vraiment, tu sais, je m'inspire pas, ma mère est pas contrôlante, puis tu sais, c'est pas... je suis pas dans mon entourage, là.
OK. D'ailleurs, la page, vous l'avez dit dans votre page de remerciement que c'était la page la plus importante. Yves. Parce qu'ils ont vraiment été là, là, c'est pas juste une façon de parler.
Non.
C'était comme un tremplin.
Incroyable. Je pense qu'à chaque jour que j'écrivais mon livre, il y avait tout le temps quelqu'un que je rencontrais par hasard, je sais pas, mon café du coin ou même mes amis du quartier. Le monde m'envoie des messages. T'sais. Sophie, puis ça avance ton projet, comment ça va? T'sais, j'avais tout le temps comme, oh, c'est le fun, je suis contente pour toi, explique-moi comment tu... T'sais, c'est quoi ton processus? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire. Tu sais, j'avais toujours un mot positif pour m'encourager, puis de me dire « Let's go, Sophie, tu sais, tu fais pas ça pour rien, là. Il y a du monde qui t'encourage, puis vas-y, fais-le ton rêve, là. » C'est vraiment merveilleux.
Sans avoir sorti le premier livre, les gens croyaient... En fait, ils croyaient peut-être plus en vous que vous croyez en vous-même.
C'est ça, oui. Moi, j'étais vraiment comme « Oh my God, pourquoi est-ce que je fais ça? » Mais je le faisais, tu sais, pour moi. Je le faisais aussi pour mes enfants, pour leur montrer qu'un rêve, ça se réalise. Puis si tu travailles pas fort pour, tu peux l'atteindre. Mais exactement, je croyais pas assez en moi. Puis il a fallu vraiment que je sorte de ma coquille, que j'en parle. Puis le monde m'a vraiment beaucoup encouragée.
Deux lancements?
Ouais.
Deux lancements,
parce que ça vient de moi.
L'automne passé, un lancement à Chipagan.
Oui, un lancement à Chipagan, un lancement à Moncton. Je voulais faire ça avec ma famille, mes amis de la péninsule, puis je voulais le faire aussi à Moncton avec mes amis de par ici. Donc, j'ai dit pourquoi pas en faire deux.
Comment vous avez vécu ça?
Oh mon Dieu, beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup. J'étais tellement contente de pouvoir vivre ça avec tout mon monde. C'était incroyable. J'aurais pas pu demander mieux. C'était merveilleux. Beaucoup de stress, mais merveilleux.
Qu'est-ce qui vous stressait?
C'est aussi niaiseux que de parler devant le monde. Ouais, c'est ça qui me bloque, parler devant les gens, mais
Ça s'est bien
passé. Ça a super bien été parce que mon éditrice et coach étaient là à me poser des questions. C'était un peu comme une entrevue. Ça a vraiment bien été.
OK, OK. Puis la fameuse image, quand on se projette à écrire un livre, j'ai déjà pensé, mais peut-être 10 minutes, parce que c'est vraiment beaucoup de travail, là. C'est énormément de travail. Mm-hmm. Combien de temps vous avez travaillé là-dessus?
10 mois.
10 mois. Mais ça, c'est sans compter ce à quoi vous avez pensé avant de commencer à écrire.
Ben, l'histoire de Sarah, j'ai décidé d'écrire ça une semaine avant de rencontrer ma coach d'écriture. J'avais une autre idée complètement. Sarah n'était pas dans ma tête du tout. J'avais commencé quelque chose de plus dramatique, de plus... Puis là, une semaine avant de rencontrer ma coach, je me disais, Sophie, c'est pas toi. Du drame, c'est pas toi. T'as besoin de quelque chose qui est comme, hop, la vie, de positif, de drôle, de justement, de pétillant. Puis une semaine avant, je sais pas, j'ai eu un déclic d'une fille qui part en road trip. Puis quand j'ai rencontré ma coach pour planifier un plan ou juste pour me dire, oui, Sophie, ton histoire se peut ou ton histoire, je suis pas certaine, tu sais, ou on va la travailler. Quand j'ai expliqué ce que je voulais faire, elle m'a dit, oui, ça le fait. C'est sûr que ça le fait. Fait qu'en une semaine, Sarah est née parce que sinon, je n'avais pas du tout cette idée-là d'écrire ce livre-là. Donc, en une semaine, puis 10 mois après, mon livre était... Le premier jet était fini.
Est-ce que c'est comme ça que ça se passe maintenant? Parce que êtes-vous en train d'écrire un...
Mon tome 2, le premier jet vient d'être terminé, là.
Fait que... J'ai imposé comme ça, de la même façon?
Ben, c'est la suite, donc, de Sarah Spark. C'est la suite. Mon plan était fait pas du début, mais quand Sarah Sparks, le premier tome, est sorti, j'ai repensé à mon plan du deuxième qui était fait. Puis là, je l'ai écrit, ça fait depuis octobre l'année passée, donc 2019. Puis là, je viens de finir. Fait que ça fait à peu près 11 mois là, que j'étais en train d'écrire, puis là, le premier jet est fini, là.
Wow! Non, mais vraiment, Sophie, je vous souhaite autant de succès que le premier à la recherche de Sarah Sparks, parce qu'il y a eu 3 réimpressions du livre.
Oui, oui, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente. C'est pas mal le fun que les gens ont embarqué dans l'aventure de Sarah, puis qu'ils partent à sa recherche. Je suis vraiment contente de ça.
C'est vendu en Europe?
Il n'est pas encore vendu en Europe, mais ça s'en vient. Là, les démarches s'en viennent.
Okay. Oui. Je ne suis pas surprise. Il y a eu le Salon du livre de Montréal qui s'est passé.
Oui.
Ça devient quelque chose, là.
Oh mon Dieu, c'est vraiment excitant. Il y avait tellement de monde. Vraiment, c'est un rêve où je réalise des rêves, on dirait, à chaque fois que je parle de livre ou de Salon du livre. Montréal était vraiment exceptionnel, mais là, de savoir que je participe à celui de la péninsule acadienne, pour moi, c'est encore plus gros parce que là, c'est ma gang, c'est mon monde. Je suis tellement heureuse de parler justement de ça avec Julie, ma coach, ce matin. Puis j'étais comme, si tu savais comment je suis heureuse, plus que celui de Montréal, mais c'est incroyable tout ce qui se passe. Là, moi, j'en reviens juste pas.
C'est parce que c'est chez vous, c'est pour ça que vous êtes heureux?
Oui, oui, exactement. Moi, je suis une fille de ma place. Je suis groundée dans mon petit coin de pays. Puis quand c'est des affaires qui se passent comme ça dans mon coin, ça vient me toucher. J'aime vraiment ça. Je suis vraiment contente.
J'espère que vous aurez des messages, comme vous ne pouvez pas être là physiquement. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce n'est que partie remise. Votre présence physique va se faire éventuellement.
Oui.
Mm-hmm. Vous êtes à pieds joints là-dedans, là, dans l'écriture. Non, mais c'est magnifique, Sophie.
Merci. Ce que
qu'est-ce que les gens vous disent par rapport à... Ils ont été très encourageants. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils reçoivent ça, cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on vous dit à la recherche de Sarah Sparks?
Oh mon Dieu, j'ai beaucoup de bons commentaires. Comme le monde embarque vraiment dans cette aventure-là, dans ce road trip-là. comme il y en a beaucoup qui m'ont dit, oh mon Dieu, tu sais, je l'ai lu en une shot, je pouvais pas le déposer. Je voulais tout le temps savoir, tu sais, au prochain chapitre, ce qui allait se passer, parce que chaque chapitre est différent. Son road trip. J'ai eu tellement de bons commentaires. On dirait que c'est ça qui me motive à terminer comme le deuxième bientôt, parce que j'ai vraiment hâte que les gens savent la suite de ce qui va se passer dans la vie de Sarah, là.
Là, je suis OK, là. Là, je vais toujours pour savoir ce qui va se passer.
Ah oui. Elle n'a pas fini notre Sarah.
Ben, continuez à écrire. C'est trop plaisant. C'est beau. C'est beau de voir ça. Puis, je suis pas mal fière. On est pas mal. Je pense que je peux parler au nom des gens de la péninsule. On est fiers quand une des nôtres réussit puis va jusqu'au bout de ses rêves. C'est vraiment ça, l'idée. Réussir, ben, c'est faire ce qu'on aime.
C'est exactement ça. Oui, merci beaucoup.
Merci, Sophie Power.
Merci.
Voici un extrait de « À la recherche de Sarah Sparks » dans le rôle de Sarah, Sophie, et dans le rôle de Matt, moi-même.
Dans le restaurant, ils s'installèrent à une banquette. Une jeune serveuse d'une vingtaine d'années arriva. Sarah crut que sa mâchoire allait se disloquer tellement elle broyait sa gomme avec intensité. Tout en leur présentant le menu, elle leur demanda s'ils allaient prendre quelque chose à boire.
« De l'eau pour moi. »
« De l'eau? » « Moi, ce sera une bière. Une légère, par contre. »«
Ouais, tant qu'à ça. Je vais en prendre une aussi. »
Les clients commençaient graduellement à partir. Ce restaurant était plutôt familial. À 7 heures, les petites familles avaient déjà terminé de manger. On y offrait un menu varié. Steak frites, hamburger, pâtes. Il y en avait pour tous les goûts. « Prends-moi un steak frites, Sarah. Je vais aller aux toilettes. Médium saignant la cuisson. »«
Médium saignant. Dégoûtant. » Mais de toute façon, c'est toi qui le manges.
Matt lui fit un petit sourire et un clin d'œil en s'éloignant. La serveuse arriva avec les bières et prit la commande.
Un steak médium saignant.
Une moue de dégoût apparut sur son visage.
Des pâtes Alfredo pour moi, s'il vous plaît.
Parfait, je vous reviens avec ça, dit la serveuse qui mâchait encore sa gomme vigoureusement.
J'espère qu'elle a au moins changé son morceau. Il ne doit plus avoir grand goût dans celui-là,
pensa Sarah. Elle leva les yeux. Un homme, dans la mi-trentaine, l'observait. C'en était presque gênant. Il avait l'air d'une brute. Le gars portait une casquette et arborait des cheveux noirs et longs attachés, ainsi qu'une barbe quand même bien taillée. Il lui faisait un peu peur. Elle baissa son regard immédiatement, un peu stressée. Bon, qu'est-ce qu'elle allait s'imaginer maintenant? Matt revient. « Mon Dieu, Sarah, qu'est-ce que t'as? As-tu vu un mort? »
« Non, mais j'ai peur d'en devenir une. »«
Mais de quoi tu parles? »
« L'homme là-bas, il n'arrête pas de me fixer du regard. Ne te retourne pas tout de suite. »«
Tu veux qu'on change de place? » »«
Non, ça serait trop louche notre affaire. »
Deux filles arrivèrent et s'assirent avec lui.
« Oh mon Dieu, Matt, ce sont les filles qui faisaient du pouce en partant de Silver Spring. Elles sont difficiles à manquer. L'une d'elles avait les cheveux bleus. Elles sont avec lui. Il a dû les embarquer. J'ai un mauvais feeling, Matt.
Veux-tu arrêter? Matt se retourna rapidement pour voir à quoi ressemblait ce tueur en série décrit par Sarah. La pièce d'homme, toi? As-tu vu son gros tatouage sur le bras? Une œuvre d'art? Ça n'a pas l'air d'un tueur en série, mais plutôt un séducteur né. « Sarah, il te fait de l'œil, voyons, réveille! »«
De l'œil? Calme-toi! »
dit Sarah, un peu confuse et gênée à la fois. Elle secoua la tête comme pour se changer les idées. Pendant le reste du souper, l'homme à la barbe lui jeta des petites œillades. Sarah essayait toujours de les éviter, mais par moments, leurs regards se croisaient et avec sa casquette enfoncée sur sa tête, ses yeux devenaient mystérieux. Matt riait de la voir faire. Lorsque ce fut le temps du dessert pour Matt et Sarah, les trois compagnons à l'autre table payèrent et sortirent du restaurant. Sarah se surprit à être déçue.
« Voyons, à quoi bon se faire une idée? Ce n'est qu'un inconnu parmi tant d'autres. Bon, Est-ce qu'on fait un bout?
Proposa Sarah une fois repue. Oui, allons-y. Je crois pas qu'on se rende à Nashville ce soir. T'en penses quoi?
Je peux conduire et on arrête quand on est fatigué.
OK, pas de problème. À l'extérieur du restaurant, Sarah regarda autour pour voir si elle n'apercevrait pas les trois voyageurs. Ils étaient sûrement déjà en route. Un peu de déception teintait son regard. Tu penses que t'as perdu ta chance? Voyons, Sarah, on se calme le pompon.
Qu'est-ce que tu racontes? Je ne l'ai vu que 20 minutes maximum. Je ne suis pas en train de me faire des idées, mais je pense plutôt que j'étais une proie. Ces pauvres filles qui voyagent avec lui ne savent certainement pas à quoi s'attendre. Je n'aimerais pas être à leur place.
Sarah se mentait à elle-même. Elle avait trouvé cet homme plutôt craquant, mais ne voulait pas se l'avouer. De toute façon, il restait de la route à faire. Pas de temps à perdre pour l'instant avec un homme qu'elle ne reverrait jamais. Elle attendrait de voir les beaux garçons de la Californie. Juliana, sors de ce corps! Tous les inconnus sont pas des tueurs en série! Allez, monte! Sarah roula les yeux encore une fois.
N'importe quoi!
Ils roulèrent pendant 2 heures et demie sans s'arrêter. Comme il se faisait déjà très tard, Sarah proposa de trouver un petit motel. Matt entra motel dans son moteur de recherche et Knoxville comme destination. Marble Inn Center, ça te va?
Peu importe, Matt. Je ne connais aucun endroit.
Bon, alors ça sera ça. Ça a l'air d'une grosse maison, mais quand même avec du cachet.
Parfait. Appelle pour voir s'ils ont de la place.
Matt téléphona. Il restait qu'une chambre avec un lit king.
C'est correct avec moi. Un lit king en plus. On ne se touchera même pas.
Ils trouvèrent l'endroit sans problème. Sarah stationna l'auto en face de ce qui ressemblait effectivement à une belle grosse résidence. Un bed and breakfast au lieu d'un motel. Bon, ils avaient juste besoin d'une bonne douche et d'un lit. Ils étaient exténués. Matt apporta sa cargaison et Sarah sa petite valise. La vieille dame à l'accueil était bien sympathique. Elle leur donna la clé de la chambre et leur indiqua où était situé l'escalier. Il y avait des boiseries et de la tapisserie partout.
C'est vraiment beau,
pensa Sarah. Ça lui faisait penser un peu à chez elle. Une fois dans la chambre, Matt remarqua que la salle de bain était au bout du couloir. Tu peux aller prendre ta douche la première?
Puisque tu me l'offres, oui.
Parfait. Moi, je vais regarder un peu l'itinéraire de demain. J'arrive presque à destination, tu sais. Un silence régna dans la chambre.
Bon, au fond du couloir, tu disais?
Demanda-t-elle à Matt, tout en rassemblant ses effets personnels. Submergée par une envie de pleurer, Sarah referma la porte derrière elle. Elle n'avait plus envie de poursuivre ce voyage, et encore moins toute seule. Mais l'aventurière ne pouvait pas rebrousser chemin. L'orgueil prenait le dessus. Encore une fois, elle entendait sa mère lui rappeler qu'elle avait raison de croire que Sarah n'aurait pas dû partir.
www.salonduLivrePA.com Carnet de bord, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'entrevues avec des personnalités acadiennes et ça s'adresse aux jeunes adolescents. Mais je dois vous dire que je pense que tout le monde va aimer ça. On nous parle de parcours, de réalisation et de point de vue de ces personnalités acadiennes. Il y a Joseph-Yvon Thériault, Donna Lacroix, Jean-Marie Nadeau, Michel Bastarache. J'ai écouté un extrait et il nous raconte qu'il a passé 2 entrevues d'embauche dans sa vie et il n'a pas été retenu pour ces 2 entrevues. Alors, toutes les autres fois, il a été choisi quand même, mais c'est très intéressant. Et là, je vous présente le carnet de bord de Marguerite Maillet, la fondatrice de la maison d'édition Bouton d'or d'Acadie. On apprend là-dedans qu'elle était religieuse, mais l'extrait que je vais vous présenter, c'est quand elle nous parle de ses années à l'école. Elle était étudiante à l'école secondaire. Et il y a son professeur qui l'a inspiré, mais il y a 2 phrases qui ont été prononcées par son professeur qui ont vraiment été le moteur de cette fondatrice de la maison d'édition Bouton d'or d'Acadie. Parce qu'il faut dire que c'est après avoir pris sa retraite qu'elle a décidé de fonder la maison d'édition. Je vous invite à écouter Marguerite Maître.
On nous a parlé de Lord Durham et de Victor Hugo. Mm-hmm. Puis ces deux phrases qui m'ont marqué toute ma vie, mm-hmm. dans presque tout ce que j'ai fait. Ça m'a hanté, ces phrases-là. Mm-hmm. Et on avait demandé à Lord Durham de venir au Canada, étudier l'union possible ou la désunion, qu'est-ce qui se passait, entre l'Ontario, le Haut et le Bas-Canada, l'Ontario et le Québec. Mm-hmm. Puis Lord Durham avait écrit dans son rapport, bien là, je vais paraphraser, là. Il n'y a pas à vous inquiéter. Les Canadiens français sont un peuple sans littérature et sans histoire. Ils s'assimileront d'eux-mêmes. Mm. Ils ne seront pas assez fiers pour résister à l'assimilation. Mm. Alors, moi, ça me frappait. Je pensais à un peuple qui est sans histoire ou bien qui croit être sans histoire. Ça, c'est les Acadiens. Mm. On pense qu'on n'a pas d'histoire parce qu'elle n'est pas écrite et on n'a pas de littérature. Mm-hmm. Alors, c'est ce qui m'a forcé ou qui m'a poussé à écrire les deux livres sur montrer par l'anthologie qu'on avait une histoire de littérature, des textes qui venaient de loin, mm-hmm. et par l'autre, l'histoire de la littérature acadienne, qu'on pouvait être fier de ce qu'on était. On avait notre littérature, notre histoire aussi, parce que l'histoire de la littérature parle de la littérature, mais de l'histoire acadienne, oui, tout autant. Ouais.
Oui,
L'autre, ça c'était pour Durham. Si j'ai persévéré aussi dans certains trucs, c'est parce que j'étais hantée par la phrase de Victor Hugo. Mm-hmm. Il disait, qu'est-ce qu'est le genre humain? Le genre humain est un liseur. Il a longtemps épelé, il épelle toujours, bientôt il lira. Mm.
C'est tellement beau.
C'est tellement beau. Bientôt, il deviendra un lecteur, si mm-hmm. ça voulait dire. Alors, moi, quand j'ai entendu ça, bien, j'ai fondé Bouton d'or Acadie.
Mm. Et on a...
Oui, afin de donner à nos jeunes Acadiens des livres écrits pour eux, puis pour les leurs, pour qu'ils soient fiers de cette littérature-là et qu'ils apprennent non seulement à lire, mais non seulement à écrire, mais à lire, et lire beaucoup, qu'ils deviennent des lecteurs, en d'autres mots.
Autre onglet à visiter sur le site du Salon du Livre, échange épistolaire entre deux auteurs, Jean Babineau et Aristote Kambungo, qui font un échange sur l'utilité de la littérature en 2020, et André-Carl Vachon et Jean-Marie Nadeau sur l'Acadie rêvée et Acadie vécue. On écoute André-Carl.
Alors, le Salon du Livre m'a approché justement pour faire un échange épistolaire avec Jean-Marie Nadeau. J'étais vraiment très, très content puisque j'apprécie vraiment tout ce que Jean-Marie a pu faire pour le développement de cette Acadie moderne, si on peut dire ça comme ça. Alors, évidemment, on nous a approché avec une thématique, donc l'Acadie rêvée. Alors, je me suis dit, d'accord, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Parce que l'échange épistolaire, c'est-à-dire que j'écris une lettre, Jean-Marie me répond, je réponds, on se répond, bref. Alors, donc, comme historien, je me suis dit, et pourquoi pas, donc, l'Acadie rêvée au temps de la fondation. Et ensuite, j'ai lancé une question à Jean-Marie pour qu'il puisse nous parler, lui, de l'Acadie rêvée du Parti acadien. Alors, pour faire vraiment un lien avec la Renaissance hein, de toute cette thématique-là. Et ensuite, Jean-Marie m'a relancé avec l'Acadie rêvée au temps de la Renaissance acadienne, puisque dans le fond, il y a une racine à tout ça, ce parti acadien-là. Et moi, je l'ai relancé, donc avec la naissance des congrès mondiaux acadiens. Et donc, pour terminer aussi avec, mais comment entrevoit-il l'avenir de l'Acadie? Alors, je vous lis donc un petit extrait sans vous lire la lettre au complet quand même pour vous donner un petit avant-goût. Alors, j'y vais avec l'Acadie rêvée au temps de la fondation. Bonjour Jean-Marie, j'espère que tu vas bien. Quand on pense à l'Acadie d'autrefois, on peut se demander s'il y avait une différence entre l'Acadie rêvée par les rois de France et d'Angleterre. je vous laisse mijoter. Et donc, je vous envoie à la finale pour voir le lien avec ce que m'a envoyé donc, à Jean-Marie. Alors, comme on a pu le constater, les deux rois voulaient exploiter les ressources naturelles et coloniser le territoire. Jean-Marie, peux-tu nous raconter quel était donc le rêve du Parti acadien dans les années 1970? À bientôt, signé André Cap.
C'est tout pour ce troisième balado. Je remercie à la technique Eric Miller, à la musique Jean-Marie Pitt-Benoît, à la réalisation et à l'animation Diane Auzier. Merci d'avoir été des nôtres.